On vit dans un système qu'on appelle, et c'est toute la planète, le système néolibéral ou ultralibéral, et que moi j'appelle tout simplement le capitalisme dans sa phase spéculative. Le principe de fonctionnement, c'est que l'on peut accumuler la richesse sans aucune limite. Et un mécanisme de transfert de richesse extrêmement efficace, c'est le mécanisme de la dette. Pas uniquement les dettes du Sud, mais aussi les dettes publiques des pays de l'OCDE, les dettes des entreprises, les dettes des ménages. Toutes les dettes sont des mécanismes de transfert de richesse vers l'économie spéculative. En ce qui concerne le Sud, et je fais le lien avec mon ami et camarade précédent, bon, il faut savoir que ce n'est pas le Nord qui aide le Sud, mais c'est le Sud qui finance l'opulence et les gaspillages du Nord, puisque, disons, la charge de la dette payée du Sud vers le Nord est à peu près égale à 6 fois ce qu'ils appellent aide au développement. Alors, dans ce système, bien sûr, il y a, comme a dit Mariama, un outil de défiscalisation, c'est les paradis fiscaux. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler. C'est un peu technique. En général, je fais ça en 1h30 et en 7 parties. Aujourd'hui, je vais essayer de faire ça, disons, en 1/2 heure et quelques minutes par partie. Alors, la première partie, c'est qu'est-ce qu'un paradis fiscal ? D'abord, la définition. Il faut dire qu'il n'y a pas de définition des paradis fiscaux. Ça peut être des États souverains, comme la Suisse, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche, les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Il faut savoir que parmi les 25 pays de l'Union européenne, 10 sont des paradis fiscaux. Tout à l'heure, si vous me les demandez, je vous les énumérerai. Ça peut être des micro-États, membres de l'ONU, mais qui dépendent d'une puissance protectrice, Monaco, la France, Andorre, la France et l'Espagne, le Liechtenstein, la Suisse et l'Autriche. Le Liechtenstein, c'est le seul pays du monde où il y a des travailleurs immigrés suisses. Mais ne vous inquiétez pas pour eux, ils sont bien payés. Mais ça peut être des colonies britanniques disposant d'un gouvernement autonome ou d'anciennes colonies françaises. Par exemple, la Polynésie est un paradis fiscal, la Polynésie française. Ça peut être les îles Vierges britanniques, vierges mais très consentantes, puisque sur ces îles, il y a 300 000 sociétés offshore. Bien. Alors, ces paradis fiscaux, combien il y en a ? Il y en aurait 91. Alors, c'est pas moi qui le dis. C'est le guide Chambaud des paradis fiscaux, 7e édition. Alors, c'est un truc que je me suis payé. C'est assez nauséabond, mais on finit par y prendre goût. Donc, c'est du sérieux, là. C'est le bouquin le plus sérieux de tous, parce que c'est fait pour ceux qui veulent magouiller. Il est édité par un cabinet d'avocats du canton de Vaud en Suisse, et ils indiquent 91 paradis fiscaux, mais classés en 7 catégories par ordre de qualité paradisiaque décroissante. Et il y en a 61 de bonne qualité, puis les autres moins bons. Le Vatican fait partie des paradis fiscaux. Mais il est en 4e catégorie. Donc le diable et le bon Dieu ne font pas bon ménage. Ils ne sont pas très performants. Donc alors maintenant, on pourrait se demander où ils sont ces paradis fiscaux, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas difficile. Si je mettais les transparents, je vous les montrerai. Il y a 3 grandes zones d'économie dominante. C'est l'Amérique du Nord, les États-Unis, c'est l'Union européenne et c'est le Japon et ce qui est autour. Moi, j'appelle ça la triade. Eh bien, quand on regarde la carte mondiale, c'est pas difficile. Les paradis fiscaux sont tous autour de ces zones-là. Et la raison est simple, c'est qu'ils servent les économies dominantes. Bon, alors je vais essayer d'être le moins ennuyeux possible. Alors, quelles possibilités, disons, offrent les paradis fiscaux ? Bon, alors, c'est pas difficile. Ils permettent l'évasion. Ils permettent la fraude, ils permettent le blanchiment. Je vais juste, disons, je saute plein de trucs, et puis bon, oui, parce que, et disons, étant donné que j'ai peu de temps, disons que il y a, disons, 3 façons d'utiliser les paradis fiscaux. La première, c'est de se soustraire à l'impôt. Alors bon, là, ça concerne qui ? Ça concerne les banques, les multinationales et les grandes fortunes. L'autre, et ça c'est grâce à l'évasion et à la fraude. L'autre, c'est de blanchir de l'argent sale. Alors là, ça concerne les trafics de drogue, la prostitution, les rackets, trafic d'organes, enfin tout ce que l'on peut faire de dégueulasse en ce monde, et je vous assure que la liste est extrêmement longue.
Vous oubliez aussi l'argent du terrorisme.
J'ai pas terminé, Mariama. Alors, il y a aussi tous ceux qui veulent noircir de l'argent propre. Tant soit-il que l'argent puisse être propre. Alors là, c'est les caisses noires, la corruption, les services secrets, le terrorisme. Alors voilà, donc les trois façons d'utiliser les paradis fiscaux. Alors, il faut savoir que toutes les banques sont installées dans les paradis fiscaux. Toutes. Toutes les grandes banques sont... Oh, les banques, les grandes et les petites. Toutes les multinationales ont des filiales dans les paradis fiscaux. Quant aux grandes fortunes, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment, vraiment riches, ils les utilisent également. Il faut savoir que d'après la revue Forbes, le dernier numéro, on a catalogué en 2005 691 milliardaires sur la planète. Ces 691 familles disposent d'une fortune qui est égale au PIB de la France plus celui du Benelux. Vous voyez ce que ça signifie, la France, quatrième puissance économique mondiale. Donc, je pourrais vous donner, bon, je vais sauter tout ça. Le premier, c'est toujours Bill Gates, n'est-ce pas ? Le deuxième, c'est Warren Buffett. Parmi les 10 premiers, il y en a 5 qui correspondent à de la finance spéculative, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, ce qui montre le poids de la finance spéculative dans le monde d'aujourd'hui. Pour la France, la première, c'est Liliane Bettencourt, avec 17 milliards d'euros de fortune personnelle. Alors, par exemple, le patron de L'Oréal, Lindsay Owen Jones, a un revenu qui doit être de l'ordre de 120 millions par an. Donc, c'est un gagne petit à côté de Liliane. Alors, vous voyez ce que peuvent représenter les gouvernements et les ministres. Autre chose que les valets de pied de ces gens-là, ce n'est pas possible. Quand on dispose de fortunes aussi énormes, on a le pouvoir. Bon, les banques, je passe, mais je vous dis, par exemple, si je prends la Société Générale, le Crédit Lyonnais, tenez, il est aux îles Caïmans, aux Émirats Arabes, à Hong Kong, au Labu, en Liban, etc.
Oui, mais... On peut s'attarder sur le Crédit Lyonnais, ça nous a coûté quand même de l'argent à tous les citoyens que nous sommes. Et oui. Ça continue avec l'affaire Executive Life.
Oui, bien sûr. Oui. Non, mais là, il faudrait que je parle des structures de défaisance. Et bon, avec le temps que vous m'accordez, il vaut mieux que je parle.
Je vous accorde 5 minutes de plus, c'est passionnant.
Oui, mais les mafias. Les mafias, ça existe. Hein. Alors, par exemple, quelques chiffres. La Camorra de Campanie, c'est 132 familles et 7200 soldats. La mafia de Sicile, 180 familles et 40 à 50 000 soldats. Les Yakuza japonaises, 750 clans, 21 000 membres. À Taïwan, vous avez le bambou uni, la bande des quatre mers, ça fait à peu près 60 000 hommes. Le grand cercle en Chine, effectif inconnu, mais il paraît que c'est énorme. Aux États-Unis, il y a toujours la Cosa Nostra. 30 000 évalués, 30 000 hommes. Là, en Colombie, les cartels. En Russie, il y aurait 120 000 groupes mafieux et 100 000 hommes. Et 40% de l'économie russe serait dans leurs mains. Donc vous comprenez bien que ces gens-là, c'est pas des gens qui vont, disons, faire des petites voyouteries. Ils trafiquent des sommes tellement énormes qu'ils sont forcément dans le secteur bancaire. Et les chefs de ces mafias sont des gens bien sous tout rapport, bien cravatés, mieux habillés que je le suis, etc., etc.
Ça ne les empêche pas de finir en Sibérie.
En général, il ne leur arrive rien.
Excusez-moi, mais il y a un milliardaire qui est en prison.
Oui, un de temps en temps. Mais oui, mais c'est vraiment parce qu'ici... oui, lui, c'est
Kodorsky,
un cas...
Kodorsky, il est quand même en prison en Sibérie.
Oui. Alors,
il a voulu faire la politique.
Oui, oui, disons que, mais disons que ça c'est le cas exceptionnel qui confirme la règle.
Merci.
La règle qui fait qu'il n'y a aucune impunité, il y a toute une impunité totale. Bon, je voudrais parler du blanchiment et de l'évasion. Alors, bon, les mécanismes d'évasion, je vais les laisser tomber parce que c'est compliqué, il faudrait que je passe des transparents. Mais ce que je vais donner, c'est quelques chiffres. L'évasion fiscale en France, c'est à peu près, ça a été évalué par le SNUI, le Syndicat National Unifié des Impôts, et aussi par la douane, il y en a un troisième. Bon, j'ai oublié le troisième organisme qui s'est occupé de ça. Eh bien, c'est l'INSEE, tout simplement. Comment ça? Alors, et donc, on a évalué ça à peu près 50 milliards d'euros par an. Alors, 50 milliards d'euros par an, c'est du même ordre de grandeur que ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Et c'est du même ordre de grandeur que le déficit de l'État. Donc, si on récupérait, disons, ce qui s'évade vers les paradis fiscaux, il n'y aurait pas de déficit. Vous voyez ? Et lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'argent pour le service public, il suffirait d'en récupérer une petite partie. Nous, actuellement, à Rouen, on est en pleine bataille pour essayer de faire vivre l'université. Malheureux, il nous manque 6 millions d'euros. C'est une misère. Si on récupérait un quart de l'évasion fiscale, on aurait de quoi servir largement tous les services publics.
Et entretenir nos banlieues, peut-être.
Et les banlieues, bien entendu, aucun problème. Mais les services publics, pour moi, ça va partout.
Oui, surtout c'est... dans les banlieues, ça peut être utile.
Partout. Alors, aux États-Unis, les États-Unis perdent, paraît-il, à peu près 225 milliards d'euros par an en évasion fiscale. Mais ils se laissent faire. Ils se laissent faire parce que ça permet, au fond, ils font du dumping fiscal auprès de leurs entreprises, ça les rend plus compétitives. Si on revient aux pays du Sud, l'Afrique, en évasion fiscale, perdrait à peu près, ça a été évalué par deux organisations, Oxfam et Tax Justice Network, ça serait de l'ordre de 50 à 60 milliards d'euros perdus par an. C'est supérieur au montant total de l'aide au développement de tous les pays de l'OCDE. Alors, il n'y a pas que les dictateurs. Bien sûr, les dictateurs sont très vilains. Mais il y a les soi-disant élites. Disons, l'évasion fiscale, bien sûr, on voit Mobutu et quelques autres tristes individus, mais ce sont les riches des pays pauvres qui pratiquent une évasion fiscale massive. Le cas de l'Argentine, c'est un cas d'école. Les riches argentins ont saigné leur pays. Ils s'étaient évadés à mort vers les paradis fiscaux et l'Argentine s'est trouvée à poil. Alors, je continue. Alors, quelques chiffres quand même. On pourrait se dire, est-ce que les paradis fiscaux, c'est à la marge du système capitaliste ou est-ce que c'est en plein dedans? C'est pas à la marge. Voyez, je reprends ce machin, c'est le guide des paradis fiscaux, c'est la source la plus sûre. Parce que c'est fait pour ceux qui veulent l'utiliser. Et je relève quelques chiffres et je vous les donne. Moi je suis membre du Conseil national d'attaque. Vous voyez, membre de la commission, et donc, vous voyez.
Non, mais vous êtes surtout professeur. Je crois que c'est déjà, ça vous empêche.
Professeur, ça n'empêche rien. Mais je suis un opposé.
Vous parlez de votre rémunération.
Oui, ma rémunération, non, elle est. On pourrait, même des petits peuvent servir. Non, disons que je suis aussi un opposant résolu au capitalisme, et donc il n'est pas question pour moi que j'aille me commettre avec ces gens-là. Alors, donc. Quelques chiffres, en essayant de ne pas vous bourrer trop le crâne. 55% des flux mondiaux de capitaux passent par les paradis fiscaux. 55%. Plus du tiers des capitaux de la planète résident dans les paradis fiscaux, c'est marqué là. Le tiers. Le montant de l'argent blanchi dans le monde se situe entre 3 et 5% du PIB mondial. Mais ça a été rectifié, c'est plutôt entre 4 et 8%. Ça augmente tout le temps. Alors ça correspond à quoi? En 1999, il y avait à peu près entre 2 000 et 3 000 milliards de dollars de blanchiment. En 1989, pour avoir des chiffres sûrs, c'était 85 milliards. Donc, en 10 ans, ça a été multiplié par 7 ou 8. Donc ça veut dire qu'en même temps que se développe la grande dérégulation, la grande défiscalisation, eh bien, le blanchiment ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire que l'économie criminelle prospère en même temps. De toute façon, elles sont congénitales, ces deux économies. Pour donner une référence, le budget de la France en 2002 était de 285 milliards d'euros. Donc, mettons entre 2000 et 3000, allez, mettons 2500 milliards de produits criminels bruts, de blanchiment dans le monde, vous voyez ce que ça fait par rapport au budget d'un pays qui est quand même la quatrième puissance mondiale. Bon, alors, la mondialisation, parce que tout ça, c'est lié à la mondialisation. Les paradis fiscaux se sont développés à partir, ils existent depuis toujours, depuis 1929. Ils ont été créés par les grandes mafias et puis par les fortunes. Mais ils se sont développés de façon explosive depuis les années 80. Ils se sont développés en même temps que la mondialisation. Alors la mondialisation, ce sont presque 3 milliards d'êtres humains qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. C'est 1,2 milliard d'êtres humains qui vivent avec moins d'un dollar par jour. C'est le revenu moyen suivant. Le revenu moyen des USA est 86 fois plus grand, plus fort, que le revenu moyen du pays le moins riche. Ça doit être la Tanzanie ou un pays de ce genre-là. Alors, bien entendu, les paradis fiscaux jouent un rôle important dans les malheurs qui arrivent au tiers-monde et aux pays du Sud. Une des raisons, par exemple, de l'augmentation de la dette, c'est ce qu'a dit notre ami tout à l'heure, mais il y a aussi le fait que les pays du Nord contrôlent les prix. Et que donc, les prix sont décidés en bourse, et que, bon, les pays du Sud reçoivent des produits manufacturés à grande valeur ajoutée, et ils vendent des matières premières. Comme ces produits bénéficient essentiellement aux classes possédantes, au fond, ça ne les gêne pas, eux, que la dette explose. Et bien entendu, cette explosion de la dette et cette évasion vers les paradis fiscaux fait que ces pays du Sud s'enfoncent de plus en plus. Et sans changement de l'ordre économique mondial, il n'y a pas de solution. Alors, il n'y a pas que les paradis fiscaux. Je voudrais aussi, je voudrais vous citer quelques paradis fiscaux quand même. Il me reste combien ?
Oh, il vous reste le temps de les citer.
Oui.
Et je rappelais donc pour la chronique People,
oui.
Aujourd'hui est intronisé, Altesse Sérénissime, c'est ça ? Un monsieur qui est à la tête d'un de nos paradis fiscaux, c'est le prince Albert de Monaco.
Oui.
Et Monaco étant l'un de nos deux paradis fiscaux sur le territoire, puisque le deuxième est en Andorre, et nous avons donc dans les DOM la Polynésie française, et nous avons aussi une partie d'une île qui est divisée en deux, une partie est anglaise, une autre est française, Saint-Martin et Barthélemy.
Bon, quelques paradis fiscaux, j'ai fait un petit choix. Par exemple, à Jersey, il y a 32 000 sociétés offshore. Il y a 335 fonds d'investissement. À Guernesey, par exemple, on a 342 compagnies d'assurance, dont 311 sont des compagnies d'assurance captives, c'est-à-dire qui n'assurent qu'une société. C'est une multinationale qui se crée sa compagnie et il la met dans un paradis fiscal. Bon, je vous ai déjà dit que les îles Vierges, abritaient 300 000 sociétés offshore. Le Luxembourg, 400 000 habitants, 7e place financière mondiale, il y a 210 banques. Il y a 14 350 holdings, 1785 fonds d'investissement, et puis cerise sur le gâteau, 55 navires sous pavillon de complaisance. Parce que le Luxembourg est un pays maritime. Il a un pavillon de complaisance. Alors, les îles Caïmans, 50 000 sociétés. 694 banques, etc., etc. Alors donc ça fait à peu près 14 millions de dollars par tête de caïman, parce que c'est 26 000 habitants.
Oui, encore
alors,
bah oui,
etc. Voyez, il faut savoir aussi que par exemple les États-Unis sont un gros paradis fiscal, parce qu'il n'y a pas que les petits voyous là, l'île Caïman. Et voyez, si j'avais eu des transparents, je vous aurais montré une publicité pour l'État du Delaware. L'État du Delaware est actuellement en tête pour les sociétés offshore. Et il s'en cache pas. Et ça, cette publicité, tout le monde peut la trouver sur Internet. Alors donc, pour 500 euros, vous pouvez créer une société offshore dans l'État du Delaware. Je n'aurais pas voulu terminer mon intervention sans vous parler des pavillons de complaisance et des zones franches. Puis-je ?
Tout à fait.
Je peux.
Surtout que nous avons eu un problème
bon.
À nos dents.
Alors, donc, parmi les 91 pays qui sont considérés comme des paradis fiscaux, il y en a 27 qui attribuent des pavillons de complaisance. Alors, qu'est-ce qu'un pavillon de complaisance ? Ben, c'est un registre normal comme les autres, mais qui est inscrit dans un pays où, bien sûr, la fiscalité est très très faible, voire nulle, où, disons, bon, on a des secrets bancaires béton, et où, disons, la législation est très très laxiste pour tout ce qui touche aux transactions financières. Alors, on paie, bien sûr, les droits pour inscrire au registre, et après, on n'a pas du tout l'obligation d'appliquer la législation fiscale du pays qui est réellement propriétaire du pavillon, ni sa législation sociale. Au fond, c'est la circulaire Bolkestein avant l'heure. C'est le principe du pays d'origine. Alors, parmi ces 27 pays, bon, je ne vais pas tous les citer.
Nous avons Malte.
Mais oui, bon, disons, en Europe, il y a Malte et Chypre. Bien sûr, il y a 10 paradis fiscaux, de toute façon, dans l'Union européenne. Alors, la Belgique en est un, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, Malte, Chypre, la Suisse, elle n'est pas dans l'Union européenne, la Grande-Bretagne, alors il y en a 10, je dois en oublier quelque part. Donc il y a 10 paradis fiscaux.
Andorre et Monaco, bon, donc on a
fait. Non, ils ne sont pas dans l'Union européenne. Je parle des pays, des 25 de l'Union européenne.
D'accord.
Les 25 de, parmi ces 25, il y en a 10 qui sont des paradis fiscaux.
D'accord, à eux tout
seuls. À eux, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, donc bien entendu, ces pavillons de complaisance, c'est là que, disons, naviguent ce qu'on peut appeler les damnés de la mer. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucun droit et qui viennent presque tous des pays du Sud. Parce que, bon, pour accepter les conditions de ces pavillons de complaisance, il faut vraiment être obligé. Et donc, ils sont payés ou pas payés. S'ils revendiquent qu'on les met sur des listes noires, ou alors ils se retrouvent à la mer. Ça m'est arrivé de discuter avec les camarades du port de Rouen et qui me disaient le dialogue social sur ces pavillons de complaisance, ça se fait le pétard sur la table. N'est-ce pas ? Or, il faut savoir. Donc, c'est finalement des endroits sans loi, ni fiscale, ni sociale. Et où, disons, les gens que l'on emploie, c'est-à-dire les marins que l'on emploie, sont soumis à toutes les brimades et à une exploitation absolument éhontée. Alors, ce qu'il faut savoir, on pourrait se dire, c'est quelques pavillons. Non. De ce transparent, je tire un chiffre uniquement. 62% de la flotte mondiale vogue sous pavillon de complaisance. 62%. C'est-à-dire les deux tiers. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, par exemple, un truc amusant, enfin, si j'ose dire. L'ensemble des pays du G7 dispose, je tire ça d'un rapport du Conseil économique et social. Bon, je ne vais pas vous donner mes sources, sinon on a pour la journée. Le Conseil économique et social a fait un rapport sur l'état de la marine mondiale. Et donc, le G7, je ne dis pas le 8, le G7, disons, dispose de 5044 navires. Et Panama de 4589. Donc Panama est aussi puissant que tous les pays du G7. Alors ça, c'est un nombre de navires. En tonnage maintenant, en tonnage de port en lourd, c'est-à-dire ce qu'on peut transporter. Le tonnage du G7, c'est 64 857 tonnes. Celui de Panama, c'est 141 372. Donc Panama, c'est 2,5 fois tous les pays du G7. Alors, le Libéria, lui tout seul, disons, si on compare le Libéria et les États-Unis, Le Liberia, c'est quatre fois les, oui, c'est plus de quatre fois les États-Unis.
Et 25 ans de guerre civile.
Voilà. Alors, maintenant, il faut pas croire qu'au Liberia, il y a, disons, un trafic énorme de navires. Non, tout se fait à partir de New York. C'est-à-dire que, bon, on enregistre sous pavillon de complaisance et on passe, mettons, disons, d'une banque à une autre par l'intermédiaire de l'ambassade. Les Libériens ne voient jamais venir un navire. Et pourtant, ils ont une des plus grandes flottes mondiales. Le Liberia, c'est une des plus grosses flottes mondiales. C'est un endroit où on ne voit jamais un seul navire.
Enfin, sauf ceux qui apportaient des armes pour la guerre civile du temps de Charles Taylor.
Oui, ceux-là, oui.
On les voyait.
Voilà, ceux-là, oui. Oui, ceux-là, oui. Alors, pour ne pas trop empiéter, il y a aussi l'histoire des zones franches. Parce que la grande défiscalisation qui fait que les États se retrouvent à poil. Alors, bien sûr, quand l'État n'a plus d'argent, on dit qu'il faut privatiser. Parce qu'en fait, c'est ça le but. Disons, toute cette défiscalisation, tous ces transferts de richesses par l'intermédiaire de la dette, le but final, c'est de privatiser toute l'économie. Et bien sûr, si l'État n'a plus de moyens, on dit qu'il faut privatiser. Or, on peut se demander si la France elle-même ne va pas vers la cessation de paiement. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jean Roux, qui est commissaire à la Cour des comptes, et qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle « La grande braderie du patrimoine français », où il montre qu'en 10 ans, on a bradé 500 milliards d'actifs au fonds de pension américain. Alors bien sûr, la braderie la plus indécente, c'est les autoroutes. Disons les autoroutes, le peuple français les a payées. Maintenant qu'elles sont rentables, on va les filer au privé. Les fonds de pension américains sont sur l'affaire. Mais il y a aussi des zones franches. La loi Borloo de l'an dernier, de 2004, a créé 85 zones franches en France. Il y en avait 45 au préalable. Alors, le prétexte, c'est de faire venir des entreprises. Il y aurait d'autres moyens de faire venir des entreprises. Alors donc, en particulier pour les quartiers en difficulté. Alors donc, qu'est-ce qui se passe dans ces zones franches? Les entreprises qui veulent bien s'y installer sont exonérées d'impôts à 100% pendant 5 ans et jusqu'à 61 000 euros de bénéfices. Et il y a aussi des exonérations de charges sociales et patronales et de taxes foncières. Donc, à mesure que vous créez ces zones franches, vous défiscalisez, c'est-à-dire que l'État, disons, a de moins en moins de revenus. Donc on abaisse les revenus des tranches supérieures, on diminue l'impôt sur la fortune, on crée des zones franches, on laisse l'évasion vers les paradis fiscaux. Tout ça, c'est une façon de détruire l'État régulateur. État régulateur qui était le résultat, non pas de la providence, comme disent les économistes, mais de la lutte du peuple français et de tous les peuples. C'est-à-dire, c'était le résultat d'un rapport de force. Et c'est ce rapport de force qu'ils sont actuellement en train d'inverser. Alors, comme je dois arriver au bout de mon temps, je vais terminer par une phrase. Bon, il y a des instances de régulation, c'est vrai. Mais ces instances de régulation, je peux juste vous dire une chose. Il y a le GAFI, c'est le groupe d'action financière internationale. Et puis, il y a l'OCDE. Il publie des listes noires de paradis fiscaux très, très voyous. En 2001, l'OCDE a enlevé le Liechtenstein. Là, je suis tombé de cul. Je me dis, je comprends plus rien aux paradis fiscaux, parce que c'est considéré comme l'État le plus dégueulasse de la planète. L'OCDE, l'année d'après, a fait un rapport laudatif sur les Bermudes. Et alors là, je me suis dit, mais mon Dieu, il faut que je change de métier. Mais j'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre grâce à un autre guide. C'est le guide du Hamel. Alors... Parce que le guide Duhamel donne des notes à tous les paradis fiscaux. Il est très sévère. Il n'y a pas de note au-dessus de 16. Et les Bermudes, c'est 16. Évidemment, le taux d'imposition, c'est 0%. Et alors, il s'étonne quand même que l'OCDE ait fait un rapport laudatif sur les Bermudes, même Duhamel. Et puis, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, bon, cela montre la puissance des lobbies américains et anglais qui sont intéressés par cette destination. Donc, la régulation des paradis fiscaux par les instances internationales telles qu'elles existent aujourd'hui, c'est illusoire. Et je voudrais pour terminer citer une phrase de deux. On les régulera lorsque le rapport de force sera suffisant pour qu'au fond, on fasse bouger ce système capitaliste. Il y a deux spécialistes qui ont écrit un bouquin, ça s'appelle « Le capitalisme clandestin », « L'illusoire régulation des places offshore ». Moi, je pensais ça depuis longtemps, mais c'était que mon petit doigt. Eux, ils ont fait une étude approfondie. Et ils écrivent cette phrase. « Les pratiques liées aux ressources offertes par les places offshore sont structurellement liées au fonctionnement du commerce et de la finance internationale. » Et donc, réguler les paradis fiscaux, aujourd'hui, ça veut dire bouger tout le système. Alors bon, il y a du travail. Et il faudra vraiment que le rapport de force soit tout très différent pour que ça change quoi que ce soit.